nous voyons, nous revenons toujours à ce même sujet, quand est-ce qu'il y a une personne humaine? Alors, saint Augustin, qui est un père respecté et respectable du début vers le 3e siècle, 2 ou 3e siècle, il faisait la distinction entre le fœtus informe, hein, un peu comme David, hein, il disait quelque chose d'informe, et puis le fœtus formé. Alors le fœtus formé, pour lui, il commençait à y avoir une âme. L'âme arrivait à ce moment-là. Et donc, l'âme était tardive, elle n'existait pas à la conception. Elle n'existait qu'à partir du moment où on discernait un être humain. Voilà, le problème, c'est que les avancées scientifiques dans ce domaine n'ont pas montré qu'il y avait un moment où l'âme colonisait le fœtus et un moment où l'âme arrivait, quoi. Il n'y a rien qui permet de... Il y a une continuité dans le développement des deux cellules initiales jusqu'au bébé à naître, jusqu'à le jour qui précède la naissance, eh bien, il n'y a pas d'interruption. C'est les mêmes cellules qui continuent leur travail. C'est le Créateur qui continue toujours, hein, à faire que ces cellules continuent à se développer pour aboutir à un enfant. Autrement dit, on peut dire que ce statut, le statut du bébé à naître, ne change pas. De la conception jusqu'à la naissance. Ce qui nous fait penser quand même que cette personne humaine, qui existe déjà dès le début, eh bien, on n'a pas le droit de la tuer. Parce que, j'en ai parlé peut-être un peu plus loin avec l'euthanasie, mais nous savons que Dieu a dit à Noé, nous savons que dans la loi il est dit en Exode 20, tu ne tueras pas. Mais nous souhaitons avoir d'autres appuis que ce que dit la loi, qui est quand même l'expression de ce que Dieu dit. Mais après le déluge, en Genèse 9 et au verset 5, Dieu dit « De la main de chacun, de son frère, je redemanderai la vie de l'homme. » Je redemanderai la vie de l'homme, de la main de chacun. Donc, si on pense, je pense qu'on devrait le faire, qu'il y a personne humaine, réaliser un avortement, c'est enlever une vie, c'est enlever une vie d'homme, et Dieu nous redemandera cette vie. D'autres circonstances sont fort pénibles. L'avortement pour raison d'anomalie du fœtus découverte par le diagnostic prénatal. Vous savez qu'il y a... Il y a des échographies qui sont faites pendant la grossesse, 3e mois pour dater, pour savoir si la date de grossesse est bonne. Et puis après, on a ce qu'on appelle les échographies morphologiques, c'est-à-dire qui vont examiner les membres, les organes intérieurs du bébé pour savoir si tout est complet, pour savoir s'il n'y a rien qui oriente vers une maladie grave. Alors ça, il y a donc l'échographie. Et puis, vous savez qu'il y a aussi maintenant des prises de sang qu'on fait pour savoir s'il n'y a pas d'anomalie génétique. Et en particulier, on fait le dépistage le plus courant, celui qu'on fait le plus fréquemment, c'est celui de la trisomie 21. Et alors, nos jeunes sœurs qui se retrouvent avec cette pression des médecins, parce qu'il y a une pression incontestable, pour rechercher ces anomalies génétiques et ces malformations, eh bien, c'est très difficile à assumer. Et ça fait partie des problèmes que rencontrent les jeunes couples dans les temps actuels. Problèmes que nous n'avons pas connus, parce qu'il n'existait pas tout ça à l'époque. Parce qu'on comprend que si on accepte de faire ces tests, si on accepte d'aller rechercher une anomalie génétique en particulier, il faut le faire dans l'esprit où on acceptera de déboucher sur un avortement. Et vous avez là les médecins qui sont là et disent, mais enfin, puisqu'on peut le dépister, pourquoi le faites-vous pas? On a les moyens, et puis on peut vous débarrasser de cet enfant anormal. Donc, c'est quelque chose à décider. Vous savez que on a le droit de refuser de faire les tests sanguins, les tests génétiques. On n'est pas obligé de les faire. Et à la limite, je pense qu'il vaut mieux pas les faire si on n'a pas dans sa pensée de déboucher sur un avortement. Parce que l'expérience a prouvé que ce n'était absolument pas intéressant de se préparer à la naissance d'un enfant à problème. Nous avons parmi nos amis, nos frères et sœurs, il y a eu un cas récent d'une sœur qui a su que son enfant présentait une malformation grave qui ferait que ce bébé ne serait pas viable. Donc, elle a décidé, avec son époux, dans une conviction spirituelle, elles ont décidé de garder cet enfant jusqu'au bout, bien qu'on leur ait proposé d'interrompre la grossesse. Cet enfant est né et puis est mort quelques heures après. Cette expérience, il ne la regrette pas. Parce que ça a été quand même un enfant qui est venu au jour. On peut lui donner un nom. Et même si le Seigneur lui a retiré son souffle rapidement, eh bien, il a vécu et il n'a pas été l'objet d'une interruption de grossesse. Parce que il faut ajouter aussi que tous ces événements, ces interruptions, ont des conséquences aussi psychologiques pour la mère en particulier, qui sont importants. C'est quand même quelque chose qu'on n'oublie pas facilement. Il est vrai qu'il y a certains esprits légers pour qui ça ne pose pas de problème. On a fait un avortement, 2 ans après, il y en a besoin d'un autre, il n'y a pas de souci, on en refait un autre. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Il semblerait quand même que ça laisse des traces et que psychiquement, on en garde des séquelles. Ce qui fait que on peut dire que la destruction d'un fœtus, même malade ou anormal, me semble incompatible avec la pensée chrétienne. Mais nous n'avons pas un texte précis. Je pense plutôt qu'il ne faut pas que nous jugions ceux qui prendraient une décision qui ne serait pas dans ce sens-là. C'est quelque chose de difficile. Nous avons néanmoins la liberté de dire que ça ne paraît pas compatible avec la pensée chrétienne. À l'autre extrémité de la vie, accompagnement de fin de vie. Alors, pour le croyant, effectivement, on pense au psaume 23, « Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Cette présence de Dieu est là quelque chose qui l'accompagne. Si la conscience est là pour lui permettre de jouir de ces choses. Et puis, il y a les proches. C'est important. La présence humaine. Comme nous le voyons, lorsque le Seigneur était sur la croix, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère. Et puis, l'exhortation de 1 Timothée 5, si quelqu'un n'a pas soin des siens, spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incrédule. Ce soin que nous devons à nos proches qui sont dans cette vallée de l'ombre de la mort. Voyons bien, c'est une vallée, on ne peut pas s'en sortir. Il y a l'ombre de la mort qui est là. Ce n'est pas la mort, puisque la mort, une fois qu'elle est traversée, la mort est là présente, pas encore efficace, puisqu'il y a encore la vie. Mais on la voit. Donc on voit bien cette expérience du psalmiste qui avait dû traverser effectivement une situation où il a vu la mort de près. Cette vallée de l'ombre de la mort. Eh bien, l'accompagnement que nous pouvons faire, c'est bien. Et puis alors, pour le croyant, nous disions, et pour tous, alors il est bien sûr que tous ceux qui sont accompagnés en fin de vie ne sont pas tous des croyants. Et alors il y a quelque chose d'important, c'est qu'il faut que ceux qui sont là, qui ont un certain pouvoir médical, qu'ils soient infirmières, médecins ou qu'ils soient soignants, il ne faut pas aborder cette situation avec orgueil. On n'est pas maître, on est serviteur de ce patient, de celui qui souffre et de celui qui va mourir. Et alors, donc, il y a une progression intéressante dans le domaine des fins de vie par les soins palliatifs. Alors, ça a été critiqué, on en a dit du mal, comme de toute chose, mais dans la majorité des cas, cela permet de donner un confort acceptable sur le plan de la douleur. On ne peut pas soulager toutes les douleurs. Il y a peut-être 10% des douleurs qui échappent au contrôle, même avec des moyens très importants. Mais il y a donc cette douleur physique, peut-être soulagée dans l'immense majorité des cas. Mais il y a la douleur morale. Parce que, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, l'angoisse, la peur, La peur de souffrir, la peur d'être seul, la peur de devenir dépendant, la peur de devenir un légume. Toute cette souffrance spirituelle qui peut être aussi liée à ce sentiment de ne pas avoir terminé quelque chose, de ne pas avoir réglé un problème, eh bien, appelle de la sollicitude. Et nous savons que les incroyants peuvent l'apporter, peuvent être d'un grand secours, mais néanmoins, si l'intervenant, celui qui est là, s'il y a la foi chrétienne, eh bien, il aura plus à apporter. L'intervenant animé par la foi chrétienne sera d'une grande utilité dans ces moments. Alors, dans ces soins palliatifs, normalement, cet état permet d'avancer paisiblement vers la mort, vers le moment où, effectivement, les fonctions vitales s'arrêteront. Et nous savons qu'il y a une solution aussi qui est apportée, sujette à débat et qui est légalisée dans des pays voisins du nôtre, c'est l'euthanasie. Euthanasie, ça veut dire bonne mort, une bonne mort. Alors que va-t-on faire? Eh bien, on va abréger la vie d'un malade incurable pour mettre fin à ses souffrances. Et cela, par compassion et pour préserver la dignité humaine. Alors ce qui fait qu'il y a même des chrétiens qui ont dit, bah oui, c'est bien, la compassion chrétienne, l'amour chrétien, c'est la compassion, on va l'aider. Et puis, la dignité humaine, c'est l'image de Dieu, il faut permettre que cette image de Dieu ne se détériore pas. À partir de quel moment avons-nous le droit de juger que la vie de mon prochain ne vaut pas la peine d'être vécue? Et des témoignages, ce ne sont pas des témoignages personnels, mais rapportés par d'autres médecins qui ont vécu ça de près, disent bien qu'on n'a pas le droit de s'arroger cette autorité, de dire non, celui-là, on va faire ce qu'il faut pour abréger ses jours. D'ailleurs, les histoires qui ont eu lieu, vous savez, il était question d'une dame qui avait abrégé la vie d'une dizaine de personnes dans je ne sais plus quelle maison de retraite, il y a quelques années de cela. Elle l'avait fait toute seule. Elle avait dit, moi je pense que je ne vais pas laisser souffrir une telle personne. C'était déplacé. D'ailleurs, elle a été condamnée. Mais vous savez donc que ça peut quand même se... Mais on en revient au fait qu'à ce moment-là, celui qui réalise cet acte tombe sous ce que Dieu a dit, de la vie de cet homme, je redemanderai la vie de celui qui est mort. Donc, c'est grave. Il y a une autre forme qui est en développement, une forme de fin de vie qui est en développement, c'est le suicide médicalement assisté. Vous n'avez peut-être pas bien entendu parler de ce système, mais un patient décide de mettre fin à ses jours, il n'a pas la force de le faire. Il est trop faible, il est trop malade. Donc, le médecin lui fournit les moyens techniques qui lui permettront de mettre fin à ses jours. Autrement dit, on installe tout le matériel et le patient n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour mettre en route la pompe qui lui enverra le produit toxique. Autrement dit, ce n'est pas le médecin qui le fait, mais il met en place tout ce qui est nécessaire. C'est le patient lui-même qui se suicide. Alors, effectivement, comme voilà, c'est là où je l'avais noté, le meurtre par compassion, qui est l'euthanasie, ou l'aide au suicide, se heurte à cette parole de Dieu que je redemanderai la vie de l'homme. Et puis, le problème, c'est que nous sommes là de l'extérieur, et nous jugeons. Et nous disons, oui, ça vaut le coup, ou ça vaut pas le coup. Eh bien, on peut pas faire cela parce que on a même rapporté, parce que ces états de souffrance, ces états de dégradation, on les voit aussi dans des évolutions ultérieure des états d'Alzheimer, vous savez, ces états où on perd toutes les facultés de relation. Et a été rapporté le cas d'un ancien pasteur qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et qui avait par moments des périodes de lucidité. Et il rapportait au sien tout le bonheur qu'il avait d'être croyant et la façon dont il jouissait du ciel dans l'état dans lequel il était, un état de... Bon, il était un peu bébête, un peu... Il était pas... Mais pendant les moments où il pouvait communiquer, il racontait ça. Eh bien, celui qui était témoin, il disait, mais c'est... On aurait dit pourtant, mais il a tout perdu, il est plus capable de... Il est inutile à la société, il n'a plus de vie de relation, on peut l'euthanasier. Hein? Non. Notre connaissance est partielle. Et même, je dis nous, mais en fait, nous, en tant que... Même les familles qui sont autour, hein, parce que nous serons tous confrontés à un problème. Hein, nous avons des parents, nous avons des grands-parents. Eh bien, nous serons placés devant eux. Et c'est pour ça qu'il faut... Il ne faut pas oublier que l'Écriture a dit que nous avons à ne pas nous lasser parce que l'homme extérieur dépérit. L'extérieur se dégrade. Hein. Même éventuellement, la vie de relation se dégrade. Mais elle nous dit aussi que l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Alors c'est extraordinaire parce qu'on peut se dire que mais même celui qui est complètement paumé, hein, qui est un Alzheimer évolué, eh bien, on ne sait pas, mais qui sait si le Seigneur ne renouvelle pas son être intérieur pour qu'il soit intérieurement heureux et qu'il profite des choses divines. Voilà. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Nous avons à avoir un respect pour ce corps. Le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. Alors c'est une autre raison de ne pas décider de sa propre mort. C'est que nous ne sommes pas à nous-mêmes. Un croyant n'est pas à lui-même. Il n'a pas à dire « c'est la fin de ma vie maintenant ». Regardez avec quel respect Pierre parle de sa fin. Le temps de déposer ma tente s'est approché. Ou, comme le dit Paul dans les... Déloger, être avec Christ. Changer de logement, changer d'habitation. Donc notre liberté n'est pas totale. Alors, effectivement, il y a des choix. Et il y a des choix dans la vie, des choix en fin de vie, des choix en début de vie. Mais nous les prendrons, nous sommes responsables, il ne faut quand même pas oublier, hein. Il n'y a pas des recettes. Et nous sommes responsables des choix que nous ferons. Nous les ferons en fonction de ce que nous savons, en fonction de nos circonstances, en fonction de notre vie spirituelle. Voilà, ce choix sera fait, mais on pense particulièrement, moi je trouve que ce qui est le plus... On pense en particulier dans ces problèmes de surveillance de grossesse. Ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde, et ça touche nos jeunes en particulier, les jeunes couples, de se trouver dans des situations où il faut faire des choses qui sont contraires à ce que la pensée chrétienne nous enseigne. Et de plus, il y a cette pression médiatique, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'écrivent et qui se disent là-dessus, et puis la pression du corps médical, et puis la pression des amis, et puis la pression des... Je me souviens d'un médecin de Strasbourg, il y a eu une naissance chez lui, et son fils était trisomique. Et quand il est arrivé dans son service habituel, où il était chef de service de chimiothérapie de cancer, donc il a dit, voilà, ben j'ai eu un enfant et il est trisomique. Et commentaire de ses collègues, mais qu'a fait le gynéco ? Il n'aurait pas pu s'en occuper. On se trouve maintenant avec ce genre de réaction. Ce n'est pas normal d'accepter ce que Dieu donne. Il faut réagir, il faut faire quelque chose. Eh bien, cela ne semble pas ce que la Bible nous enseigne.